nous sommes aujourd'hui avec Patrick Peloux qui est notre invité, médecin urgentiste. On évoquait ce qui se passe évidemment dans les services d'urgence, parce que c'est votre quotidien. Quand vous partez en vacances, vous arrivez à décrocher, vous ? Parce que c'était il n'y a pas très longtemps quand même, les vacances.
Oui, j'arrive à décrocher. Oui,
vous voyez pas des brancards ou...
Non, mais je continue à faire mes chroniques pour Charlie Hebdo et l'écriture. Ça, c'est maintenant, ça fait, c'est une autre partie de moi-même, quoi.
Et, comme une hygiène de vie. Enfin,
comme une hygiène.
C'est bizarre comme terme.
Oui. Non. C'est le terme est tout à fait juste. L'écriture, je me destinais pas. Il y a quelques années à l'écriture et la rencontre avec Philippe Val, avec Cabu, Charb, Gérard Biard, toute l'équipe de Charlie
Hebdo. Voilà, toute l'équipe de Charlie
Hebdo. Que d'un coup, et ça me sert, je suis heureux du succès de ce livre qui vit sa vie. Voilà, je suis heureux que ça plaise aux lecteurs de Charlie Hebdo ce que j'écris et ça me rend service aussi. C'est ma bouée de sauvetage, quoi, en fait.
Je voudrais qu'on revienne à cette lettre à Manon que vous envoyez à un futur médecin.
Oui, ça a été une rencontre avec une étudiante en
deuxième année de médecine,
voilà, hein, qui arrivait et j'ai eu un choc parce qu'elle m'a dit son âge et je me suis aperçu que j'avais deux fois son âge.
Voilà,
et tout est parti de là et je me suis dit il faut absolument que j'écrive aux étudiants en médecine. Pour de multiples raisons, parce que je crois que la médecine actuelle, tous ceux qui la représentent, sont des fois pas très justes dans leur vision de la médecine contemporaine. Parce que je crois qu'elle devrait être beaucoup plus éthique, beaucoup plus sociale et beaucoup moins refermée sur elle-même. Certains veulent des réformes, les réformes notamment... Bernard Debré a fait un papier dans Le Monde la semaine dernière en disant qu'il fallait fermer un hôpital sur trois. Je crois que c'est une erreur. La réforme à mener, c'est la réforme du lien entre l'université et l'hôpital.
Je peux vous interrompre un instant ?
Oui.
C'est honteux, a priori, de dire qu'il faut fermer un hôpital sur trois.
Oui.
Je me permets de... Je vais plaider... Je n'ai pas lu son papier, mais j'imagine ce qu'il y a derrière.
Oui.
Je veux dire, si c'est pour
la même
faire
chose.
Une...
Ça fait 10 ans qu'il dit la même
si
chose.
Si c'est pour faire une médecine... de meilleure qualité dans moins de lieux. Voilà. Alors, c'est une idée absurde, ça?
Totalement.
Ou... Ah bon? Alors, expliquez-nous pourquoi, c'est intéressant.
Parce que, on la vit au quotidien au niveau des services des urgences, où progressivement, quand vous fermez des lits, vous créez une sélection par spécialité et par surspécialité. Et du coup, nos collègues n'ont pas forcément les moyens pour travailler sur leur surspécialité et sélectionnent de plus en plus les malades. Nous en sommes à une époque comme ça, parce qu'il faut... On ne va pas rentrer dans les détails, mais maintenant, les hôpitaux sont payés avec la tarification à l'activité, c'est-à-dire avec une sélection des malades et des pathologies. Et donc, ça conduit à une hypersélection, ce qui fait que progressivement, le malade doit devenir idéal et rentrer dans des cases très précises. Ce qui fait que si vous fermez un tiers des hôpitaux, eh bien, vous allez avoir trop de demandes et pas assez de possibilités pour hospitaliser les malades. Donc, vous les retrouverez à nouveau au service des urgences et vous entraînerez une pénurie. Qu'il y ait une évolution nécessaire des hôpitaux, c'est évident.
Parce qu'on y reste moins de temps qu'avant aux hôpitaux maintenant.
On y reste moins de temps qu'avant.
Et on n'est plutôt pas plus mal soigné.
Oui,
ce serait même plutôt le contraire.
On a besoin de services de rééducation. On ne parle pas assez souvent de la rééducation. On a besoin de temps pour un certain nombre de pathologies, notamment les pathologies psychiatriques, notamment les pathologies médicales. On oublie que nous avons le vieillissement de la population. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'hôpital public, c'est un lieu, bien sûr, de santé, mais aussi de sécurité publique. Et il faut qu'on envisage des risques, notamment sur le réchauffement climatique, d'afflux massif dans les hôpitaux. Et en fermant les hôpitaux, on ne pourra pas gérer ça.
Alors, juste une question. Vous savez, généralement, on prend comme image, on dit la maternité de Pithiviers et le CHU d'Orléans pour faire...
Oui.
Voilà. Et un certain nombre de responsables médicaux qui ne doivent pas forcément être irresponsables, mais vous avez le droit de le contester. C'est pour ça bien entendu qu'on vous donne la parole aujourd'hui
bien
dans
sûr.
Cette émission. Disent, écoutez, il vaut mieux faire 10 km de plus pour aller au CHU d'Orléans qui est hyper performant avec ce qu'on appelle des plateaux techniques,
d'accord,
avec du personnel qui est formé, qu'à la maternité de Pithiviers où on faisait déjà plus beaucoup de trucs, où il n'y avait peut-être pas un volant entre guillemets de patients assez suffisant. Et évidemment, les personnes qui habitent à côté de Pithiviers sont scandalisées. Moi, je les comprends. Je vous pose la question, est-ce qu'ils ne seraient quand même pas mieux pris en charge au CHU d'Orléans ?
Garantissez, avant toute chose, qu'au CHU d'Orléans, il y aura suffisamment les moyens, les lits et les personnels pour que personne n'attende. Si c'est ça, d'accord. Or, ce n'est jamais ça.
Parce jamais.
Jamais. Parce qu'à chaque fois, lorsque l'on va fermer telle structure, tel nombre de lits, 1 plus 1 n'est jamais égal à 2. Ça va être égal à 1,5, un truc comme ça. Et puis, on crée une pénurie. C'est pour ça qu'une partie, enfin pas une partie d'ailleurs, vous avez toute la chirurgie qui est en train de partir sur le secteur privé. Et ça, c'est inquiétant. Parce que les cliniques ne sont plus les cliniques du temps jadis qui appartenaient au docteur Tartampion. Maintenant, ça appartient à des grands consortiums financiers. Et donc maintenant, c'est devenu un jeu d'argent. Un jeu d'argent. Et ça, il faut vraiment que la population le comprenne. Parce que est-ce que finalement nous sommes porteurs d'une idée extrêmement contemporaine qui avait été voulu au sortir de la Seconde Guerre avec la naissance de la sécurité sociale, avec le service public, avec le fait qu'on avait vraiment un axe fort sur la solidarité, l'axe de la solidarité dans notre pays grâce à la sécurité sociale, ou est-ce qu'on laisse se développer finalement un système privé? C'est un peu ce qu'on voit dans toute la première partie du dernier film de Michael Moore avec l'évolution qu'il y a aux États-Unis. Et ça, c'est terrifiant.
Alors, on ne peut pas faire toute cette émission sur les questions comptables, mais elles sont quand même au cœur de toutes vos préoccupations.
Oui.
Juste une chose, il y a un moment où on doit quand même mettre en harmonie les questions d'argent avec celles de santé.
Oui.
Vous ne le contestez pas.
Je ne le conteste pas.
Je dis ça pour qu'on n'ait pas une image,
je suis d'accord avec vous.
Doux,
je suis d'accord
raideur.
Avec vous. Mais quand vous voyez qu'à l'heure actuelle, lorsque vous êtes un médecin de terrain, que ce soit un médecin hospitalier ou un médecin généraliste qui travaille, il y a des lieux de campagne en plein Paris, donc qui est vraiment sur le terrain, et que c'est lui qui est montré du doigt, et que c'est nous qui sommes montrés du doigt, et que la seule valorisation que vous avez de la profession médicale, ce qui fait un bon médecin maintenant, c'est le médecin qui est en réunion. C'est celui qui a un poste administratif. Alors que dans les années 70, un bon médecin, c'était en effet le médecin qui se levait la nuit, le médecin qui était sur le terrain, etc. Je crois que là, nous avons une évolution de la médecine qui n'est pas bonne, qui est beaucoup trop administrative, et il faut revenir là-dessus et remettre les médecins sur le terrain, valoriser ceux qui sont, ce qu'on disait classiquement, au pied du lit du malade.
Alors à Manon,
oui.
Qui a donc la moitié de votre âge, qui est deuxième année de médecine, vous dites, j'ai de moins en moins de certitudes sur la médecine. Pourtant, en vous écoutant, je n'ai pas l'impression que ça soit exactement ça.
Ah non, mais j'ai...
Ou alors, ce ne sont pas les certitudes auxquelles je pense.
Ah ben non, mais... Je suis quelqu'un qui est rongé par les doutes. Ceux qui ne me connaissent pas penseront le contraire, peu importe. Mais je suis rongé par les doutes tout le temps. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est l'un des métiers qu'il faut faire. Il faut pas, et s'il y a des jeunes qui se lancent dans la médecine en première année, qui viennent de sortir du bac, faut pas vous désespérer, faut travailler, vous pouvez y arriver. Si j'y suis arrivé, tout le monde, à mon avis, peut y arriver. Faut travailler. Bon. Et le travail est l'une des meilleures valeurs. Mais là où j'ai des doutes, c'est quand je vois que l'éthique médicale part un peu en vrille, que des valeurs de service public sont un peu reniées.
Vous craignez des médecins qui seraient un peu trop des techniciens ?
Techniciens un peu loin des malades, qui ne savent plus parler aux malades, qui ne savent plus prendre en charge globalement... le malade et qui ont une vision qui devient beaucoup trop comptable et économique. Oui, je suis d'accord avec vous. L'économie est importante. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut que, notamment, la formation médicale professionnelle continue de l'ensemble des professionnels de santé, pas seulement des médecins. Il faut parler des kinés, des infirmières, des rééducateurs, etc. Mais ça veut dire qu'on est indépendant et qu'on ne dépend pas de l'industrie pharmaceutique.
Rassurez-moi. Par exemple. Ça, c'est sûr que c'est une vraie question.
Ça serait bien, ça, oui.
Rassurez-moi, vous n'avez pas de doute avant de faire une réa, une bonne réa.
Non, jamais.
Ça m'a foutu un peu la trouille quand j'ai lu ça.
Non, il a des états
d'âme.
Ah non, j'ai des états. Non, je peux vous dire que... Non, mais c'est marrant parce que des fois, il y a des gens qui lisent les chroniques de Charlie qui m'ont vu avec vous à la télé ou qui m'ont entendu à France Inter. Donc, d'un coup, ils passent puis ils disent... Ah bah je vous ai vu et tout, et puis alors il me pose des questions, mais je suis concentré sur mon travail. Ah déjà, ah bah vous êtes pas comme ça à la télé. Oui mais non, mais là je travaille, je suis concentré sur mon malade. Voilà.
Ça évolue la médecine au sens des gestes que vous avez appris,
de
ce qui peut se faire ou pas.
Oui. Ah bah il y a un exemple.
Faites-nous plaisir, ça.
Ah mais je vous fais plaisir. Enfin plaisir, je suis pas sûr que je vais vous faire plaisir. Le bouche à bouche est inutile dans la réanimation lorsqu'il y a Et oui, et là, je vous choque, bah oui, c'est plus le fantasme, tout ça, ça part en vrille. C'est désespérant, c'est une émission qui devient désespérante, mais ça a été démontré. Non, il faut faire du massage cardiaque. Et le massage cardiaque est important en cas d'arrêt cardiaque. C'est ce qui compte le plus. Parce que d'un coup, quand vous faites un bon massage cardiaque, comme ça, avec les deux mains sur le thorax, bon, là, évidemment, il n'y a pas encore la télé à la radio, mais bah, c'est pas grave, mais c'est mieux même. Vous mettez vos deux mains sur le thorax, là, juste en plein milieu, puis vous appuyez bien comme ça, bien régulièrement. C'est ça qui compte. Le bouche à bouche, on s'est aperçu que ça n'était pas important. Et il y a encore 5 ans, on disait, bah, faut faire du bouche à bouche, etc. Non, ça, c'est important. Et d'autre part, vous avez la mise en place un petit peu partout, des défibrillateurs semi-automatiques qui vont permettre aux gens de quasiment réanimer les morts subites. Alors c'est déjà valable dans le train, dans les TGV notamment, c'est valable dans les avions, ça va être généralisé un petit peu partout et ça c'est important.
On va récupérer des morts subites dans tous ces lieux publics.
Ça c'est formidable, ça c'est très bien. Vous mettez, et ça c'est l'évolution de la technologie qui est formidable, on vit une époque formidable en fait, il faut être rigoureusement optimiste. Vous mettez deux patchs et vous avez la machine qui parle et qui vous indique ce qu'il faut faire. Ça c'est vraiment passionnant. Vous n'êtes pas formé à ça?
Ah non, pas du tout.
Bah, je vais vous former, moi.
Bah, je veux bien.
Bah, voilà.